J'ai intitulé, enfin, ma communication, là, quand je lis Claude Simon, c'est-à-dire que, voilà, je voudrais simplement dire comment je vis ça, quoi. Puis ce que j'en pense un petit peu. Et puis aussi, je me suis centré sur un livre que j'ai eu l'occasion de reprendre plusieurs fois qui s'appelle L'Acacia, voilà. Je ne sais jamais quand débute le livre de Claude Simon. Ni la lecture. Je prends le livre, ensuite j'en lis des pages et je crois tout est déjà terminé. Cette mauvaise aventure de la débâcle de 1940 est terminée. Pourtant, je continue de lire. Alors, je retourne le roman. Je lis le titre et déjà, je suis sur un champ de bataille. Il m'est arrivé un jour de lire L'Acacia, par exemple. Et presque à la fin du livre, quand l'auteur parle de son évasion et quand il revient sur ces femmes à la recherche du corps de leur frère sur le champ de bataille, année 1919, je n'ai pu me retenir. J'ai pris dans la bibliothèque Lumière doux de William Faulkner. J'ai ouvert la première page et je suis tombé sur cette femme, Léna, qui marche sur la route, arrive de l'Alabama et dit: Me voilà déjà en Mississippi. Elle parle beaucoup. Elle raconte qu'elle a beaucoup marché et qu'elle ne va pas tarder à arriver. Elle est donc le long de la route et l'auteur nous précise que parfois, plus jeune, quand elle marchait, excusez-moi, quand elle arrivait en charrette à la ville, elle demandait à son père de descendre et de marcher à pied pour se fondre dans la foule parmi la population. Ainsi, on ne la remarquerait pas. On se rendrait compte sinon qu'elle n'est rien d'autre qu'une pauvre paysanne qui se rend à la ville. Ce qui m'impressionne, moi, dans la lecture, c'est passer d'un espace à un autre. D'un temps à l'autre, comme ça, uniquement, parce que ces troisièmes femmes dans l'Acacia, accompagnées d'un enfant né en 1913, me font penser à cette femme née à la fin du siècle dernier sur les vestiges des champs dévastés de la guerre de Sécession. Je crois, quand je lis un roman de Claude Simon, que je survole le monde entier, pas tout le monde, mais si je reviens à l'Acacia, presque, jusqu'à l'île de Madagascar, les côtes africaines, les comptoirs coloniaux de l'océan Indien, ça va très loin. Une carte postale d'amoureux suffit à vous transporter. Aussi, je n'ai pu m'empêcher. Ce jour dont je parle, de me saisir ensuite du livre de Vassili Grossman, Vie et Destin. Et je revois cette femme, cette fois, c'est en URSS, sous Staline, qui cherche son enfant mort pendant la guerre. Son fils était soldat, il s'est battu contre les Allemands. Un jour, ça m'est venu aussi à l'esprit en lisant l'Acacia que mon père a fait la guerre. Et parfois, quand par exemple Claude Simon évoque ce convoi de prisonniers à travers la nuit, je ne peux m'empêcher de penser au cahier écrit par mon père quand il est retourné à la fin de la guerre, en passant par la ville de Vienne, divisée en quatre secteurs. Revoir la mine de charbon où il fut prisonnier. Il m'est aussi arrivé de me sentir proche de ces deux étudiants cités dans le roman, des étudiants en art qui traversent une république des soviets, ou de ces soldats quand l'auteur Claude Simon évoque un régiment à pied quittant la gare de Perpignan. Le livre, alors, c'est un croisement, comme des aiguillages, et cette image me reste du train qui s'en va et laisse apparaître progressivement, en même temps que le convoi s'ébranle, les deux rails brillant à la lumière des lampadaires le long des quais. Il y a toujours cette impression de voyage et d'atmosphère mêlée, de temps suspendu ou accéléré, qui se confondent. C'est-à-dire, au commencement de la phrase « Je suis à cheval sur une quelconque route des Flandres », avec des soldats dans la nuit, sous la menace des obus, des tireurs embusqués, et à la fin de la phrase, quelques pages plus loin, je suis dans la chambre d'une maison close, avec une femme dans mon lit, et je lui parle, tout comme elle me parle, et j'évoque avec elle ce qui se produisit au début de la phrase. Ce colonel a devenu fou, qui a perdu son cheval, tué par un obus qui chevauche une autre monture, les cavaliers qui le suivent, deux cyclistes qui finissent par disparaître dans le texte, et j'ai en tête, de nouveau, ces deux étudiants qui traversent une république soviétique. Ces deux garçons sont des peintres cubistes. C'est plutôt parlant, hein. On sent que ça disloque. Et j'ai le sentiment que l'histoire, ici, c'est un grand fracas. Quelque chose qui résonne à la mesure de l'événement, la débâcle de 40, l'armée allemande, la débandade, la confusion, le désordre et l'éparpillement. On fuit toujours. Le soldat de Claude Simon est toujours dans la fuite, dans la quête d'un abri, dans la cage d'un buisson. Lui, il subit l'histoire et il le dit. L'histoire, eh ben, c'est un monstre qui vous dévore, c'est un animal mythologique, géant et nauséabond, prêt d'exploser. C'est comme une seconde nature de l'homme, ça fait peur, ça repousse. Elle vous enveloppe, l'histoire, dans ses draps de terreur, de tirs de mortier, d'obus, ça effraie les chevaux. En même temps, elle prend ses quartiers dans une atmosphère de songe, comme un brouillard qui se lève tôt le matin, dans le froid et la détresse. Le cauchemar est une jument folle sur les chemins dévastés, qui suspend ses phrases, ses images, décrit une course épique, dépasse les soldats qui détalent soudain derrière un mur de ferme abandonné. La jument lancée au galop nous restitue, dans le texte, les flammes et la fumée, les corps enchevêtrés des soldats, les corps couchés dans les talus, les granges brûlées et le foin humide, la fumée. Je voudrais, moi qui n'ai pas d'histoire, devenir moi-même l'écriture. Je voudrais la flamme des uniformes de cavalerie, les harnais. Je voudrais fuir, moi aussi, courir parmi les herbes et les éboulis de terrain dans la grande plaine. Le lecteur chevauche en permanence dans la nuit, perdu dans le livre sur lequel il s'est endormi, parmi ses pages ouvertes, un peu froissées, car coincée entre les draps et la main au repos contre la cuisse. Il n'est pas rare de se retrouver à moitié assis sous les couvertures à 2 heures du matin. On tient encore entre ses doigts la page du roman « L'Acacia » lu il y a quelques heures avant l'endormissement. Alors, on sursaute. On passe de la nuit du rêve à la nuit du livre éveillé, qui nous signale le retour à la fiction littéraire, puisque le rêve est aussi une fiction. On passe d'une nuit à l'autre, presque sans se rendre compte. On entre de nouveau dans ce texte sans espace, sans pause, aucun repos, sans page blanche, qui signalerait au moins la fin du paragraphe, si ce n'est celle d'un chapitre éventuel. Le texte, qui refuse l'interstice de la typographie, est comme une fresque, une épopée sans nom, puisque les personnages n'ont pas de nom, ils ont un statut, si on veut bien, une fonction, nous sommes d'accord, mais l'un n'est qu'un colonel devenu fou, l'autre un arabe qui part au front avec sa coiffe rouge, le suivant un prisonnier dans un wagon de chemin de fer, qui ne maîtrise ni le temps, ni l'espace, ni le plan de bataille pensé par ses officiers, ni la stratégie, comme je serais moi, lecteur, incapable de le déterminer, de penser ce qui m'arrive. Ainsi, dans certaines grandes fresques, nous avons le sentiment d'être muets, d'avoir perdu notre voix. Le texte est un combat de la parenthèse contre l'oubli. Il est le champ de bataille des phrases sans fin, comme les plaines sont infinies, le charnier des répétitions volontaires, la parole rapportée des soldats, l'expression familière à la « va comme je te pousse », les tics de langue, les inflexions, les accents régionaux, les gauloiseries, les jurons, les exclamations, les apostrophes, les insultes, des pages et des pages minées par les parenthèses qui ouvrent à l'intérieur d'un mot un continent de sens et de citations. Ensuite, la parenthèse se referme. Mais comme la parenthèse qui précède est déjà très loin, plusieurs pages en arrière, tu ne te souviens pas, toi lecteur, de ce qui s'est dit. Tu retournes donc en amont, dans le fleuve du texte. Tu fouilles dans l'eau épaisse, puis sur la rive gagnée par miracle à travers la broussaille des mots pour capturer le sens de la phrase. Ce qui apparaît derrière cette course folle, derrière le sens, est la phrase elle-même. La phrase, elle est le champ de bataille. La phrase est un cheval au galop qui franchit le lexique de la guerre, se l'approprie, et, ce faisant, reconstitue dans son rythme, par son développement et par sa ponctuation, l'ordre même du monde. Ça se joue avec les moyens du bord, des outils indigents à la disposition de qui rapporte la phrase, un crayon ou un stylo plume qui court sur un cahier. Je revois, au seuil de l'endormissement, dans ma nuit orpheline, les prises de notes utiles si on veut suivre pas à pas et dans la meilleure compréhension possible l'itinéraire d'un soldat qui fuit l'armée allemande. Je lis de ce fait, par analogie, en retrait de la pensée, car je ne veux pas revenir dessus, l'expérience de mon père pendant la guerre, la prison et la privation qu'il m'a racontée avant de mourir, et les terrils de charbon, simplement, ce n'est pas exactement le même décor, et c'est aussi un film différent. Ce qui les relie, c'est certainement les mêmes conditions difficiles, ou du moins le fait que tout cela se passe à la même époque. Mais je pense aussi, ça doit être terrible, s'apercevoir soi dans une fresque, comme certaines épopées à la gloire des rois, mais notre propre image est bien celle de simples soldats. Parfois, il s'agit d'un colonel devenu fou, qui ne sait plus où aller et qui ne comprend pas tout. Il ignore qu'il va tomber sous les balles d'un tireur embusqué. Ce colonel devenu fou éclaire de son cerveau lumineux l'ensemble du roman. C'est lui qui relie l'irrationnel, la folie, à la condition historique de sa propre expérience, et cette expérience est le roman lui-même, écrit par un colonel fou, qui ressemble à Don Quichotte, qui s'invente dans une vraie guerre des mondes illusoires et chevauche vers des chimères qui lui coûteront la vie. L'armée en déroute, tourner le dos à l'ennemi, fuir sous les bombes en jurant les grands dieux, en baissant la tête et les balles qui vous sifflent autour des oreilles. Les mots se répètent sur la chaîne du temps, les phrases qui s'enchaînent semblent fabriquées au rythme d'une machine à vapeur. Les pistons, les bielles entraînent des roues sur les rails, on entend les respirations, les souffles, d'infimes nuances sonores, une palette extraordinaire de bruits et de claquements, de déflagrations, de coups de tonnerre, une véritable symphonie sous les éclats d'obus, aussi les fers des chevaux qui résonnent sur les pavés, se subdivisent quand ils sont proches de nous, se multiplient, se succèdent le long du chemin qui descend des Flandres, produisent le bruit continu de l'histoire, constituent la violence élaborée et raffinée de l'écriture. Ensuite, ils rythment la lecture. Le roman est un instrument de résonance. Il donne souffle à une immense coulée humaine qui déferle sur les routes sous les mitrailleuses. C'est insensé. Personne ne sort du livre sans l'éblouissement des shrapnels, les éclats d'obus, le gaz sarin, la danse des flammes. Je pense à mon grand-père, gazé, comme cela se dit, en 1917. Entre parenthèses, le tempérament du lecteur, il faut le savoir, c'est tout ramener à soi, à sa propre histoire. Familiale, par faiblesse. La nature du roman, c'est d'accepter cette faiblesse. La mort, dans ce texte, est d'autant plus présente qu'elle s'active, mais n'est pas manifeste. Cela vient du fait que le témoin, l'auteur, celui qui raconte et qui rapporte la vérité, est avec le lecteur. Il l'accompagne, lui tape dans le dos quelquefois, lui prend la main. Aussi, lui, il a survécu et il raconte. Nous sommes bien d'accord que l'auteur, c'est Claude Simon, et qu'il raconte la guerre et sa vie dans un roman. Ce qui autorise la fiction. Il rapporte donc ce qu'il a vécu sans extrapoler, sans dire plus que cela, du ton tranquille de qui raconte sa traversée de l'enfer. Sans abus, sans excès de sens ni dérapage, simplement ce qui est vu et entendu est sans doute vécu. La plainte continue des prisonniers en partance pour le stalag, leur voix dans la nuit, la soif, leur cri pour un peu d'eau, quand ils s'insultent les uns les autres, comme si c'était naturel, et c'est naturel. Tout cela, comme on dit, c'est la nature humaine, du moins celle rapportée par le soldat. Nature toujours en cause, jamais unique, comme si la guerre, racontée par Claude Simon, c'était toujours plus que du collectif. Au-delà des armées et des peuples, ça devient une superposition de consciences individuelles, souvent sous un ciel froid. Les étoiles éclairent chaque être dans sa douleur personnelle. Ainsi, toutes ces douleurs associées se rejoignent, absorbées dans la gueule du monstre, l'histoire. Une seule particularité a l'évocation de ce monstre. Les hommes ont un destin qui ne leur appartient pas. Ils sont l'objet de manipulations de la part des dieux, ce qui recouvre un peu cette idée. Chacun ignore ce qui va se produire. C'est prendre le train en marche, ne jamais précéder l'événement. Le soldat n'a pas de projet. Il sait tout juste nager dans le courant. C'est ce qui fait sa qualité d'homme, et c'est désolant. Nous l'apercevons, le narrateur, devant l'acacia, décidant d'écrire. Écrire, c'est décrire. Et rien ne peut être mieux décrit que par le dessin à la plume, le trait. Devant chez lui, il y a un arbre. Eh bien, le mieux à faire est de dessiner cet arbre, comme ça. Par le trait qui représente les branches, l'arbre entre en ta possession. Décrire le monde, c'est en cerner la forme, c'est apprendre à le connaître, donc se l'approprier. L'histoire est un fait, elle se décrit quand elle ne vous emporte pas. Description. Deux points. Un capitaine se lève d'un talus au bord de la route où il a passé la nuit, prend son paquetage, marche sur le chemin, tout à coup un tir de mitrailleuse. Terminé. Rien ni personne n'est en mesure de dire cela, sauf la littérature. Elle use de la longueur d'une phrase pour décrire une chose simple, se faire tirer dessus. Il faut les mots de la simplicité pour décrire une forme, un sentiment, un être humain. C'est si difficile. La guerre racontée nous prend à l'extérieur et nous saisit de l'intérieur. Elle nous réduit à nous-mêmes. L'intérieur est une pulsation. C'est le monde qui entre par la lecture, monde violenté, disséminé, détruit. Il faut se couper du monde pour regarder le monde. Le monde, deux points. Les fers des chevaux le long de la route goudronnée. Le chant continu des soldats en déroute et des prisonniers. Le souffle du vent, la boue. Alors, c'est de nouveau un cadavre carbonisé à l'avant d'un véhicule. Nous sommes seuls dans la nuit. Nous prenons le temps de réfléchir. Le roman L'Acacia est construit dans le désordre apparent des lieux et des dates. On va d'un temps à l'autre, d'une époque à la précédente, sans chronologie. Nous faisons la même chose quand nous pensons. C'est une pensée débridée, où chaque mot compte cependant. Dans le roman, chaque mot est pesé. Pourtant, la masse du texte, si imposante. Souvent, nous reprenons le livre et l'ouvrons à l'endroit du signet. Chaque fois, le temps qui nous sépare du livre refermé nous est compté. Posé le soir avant le sommeil, ou durant le sommeil, le livre ouvert sur le drap. Un soir ou une nuit, à la fin de la lecture, le livre reposé, annoté, disparaît sous la pile des livres ou rejoint les autres livres annotés du même auteur dans un équilibre instable sur le bord d'un rayon. Posé à l'horizontale, il se fait une place devant ses livres rangés à la verticale et constitue une double épaisseur d'ouvrages qui attendent qu'on les prenne et qu'on les ouvre. Il leur faut pour cela la patience et l'attente. Plus tard, le lecteur retourne à l'acacia pour une seconde lecture. La première lecture fut reprise maintes fois. En fait, ces séquences discontinues composent un ensemble de lectures infinies entre deux temps principaux qui limitent en amont et en aval cet instant où tu as pu dire, entre guillemets, « J'ai lu l'Acacia de Claude Simon ». Ce qui implique cette hâte furtive, angoissée. Tenter, durant le réveil, de retrouver dans le texte la phrase entendue la nuit durant le sommeil, ce qui implique également la recherche d'un repère dans cette difficulté de trouver son chemin parmi les mots durant la relecture d'un paragraphe qui dure parfois 30 pages. Où et quand? Et qui? Et pourquoi? Et comment? L'écriture jalonne l'itinéraire du lecteur toujours en chemin, dans une sorte de contrebande du sens, qui se révèle à la fin de la phrase, jamais tout de suite. Lecture escarpée, désir d'abandonner le livre, mais les phrases ne vous lâchent pas, elles se sédentarisent dans la tour de Babel, où les mots pluriels sont à la recherche de leur origine. À la fin du récit, comme s'il fallait lâcher prise, le narrateur se retrouve assis à sa table de travail. Il cesse d'écrire, suspend la suite des événements. Il regarde par la fenêtre. Le souvenir, son récit, c'est terminé. En face de lui, simplement, les feuilles d'arbres, dont une, dite en étoile dans le texte, qu'il décrit. Vient le temps du rapprochement de la nature et de l'expérience. Le roman se clôt sur ce simple dessin de feuilles d'arbres. Lequel dessin évoque la leçon de choses, l'étude de la botanique, l'exercice d'observation et ressemble au travail en détail de l'écriture. Le narrateur, redevenu l'auteur, prend une page blanche et se met à dessiner. Il est temps alors de quitter le tunnel de la guerre. Il n'y a plus d'histoire. Seule une simple feuille de platane occupe l'attention et puis plus rien. Plus rien de ce qui nous a alertés, tenus en haleine par exemple à la lecture des pages 207, 208, 209. Pour preuve, eh bien, les annotations du lecteur au stylo à billes, plus nombreuses et concentrées sur ces trois pages, en plein centre du livre. Les annotations portent sur les dates et les repères dans l'histoire, l'échelle du temps. L'enfant de 4 ans, né en telle année, Madagascar, changeant de lieu, de telle date à telle date, qui grandit, lui-même dans la débâcle, 26 ans plus tard. Son père, Saint-Cyr, les époques qui se télescopent, le mariage, les lieux confondus, pourtant toujours repérables, malgré l'épaisseur du texte. On a besoin d'être aidé quand on lit Claude Simon. Nous irions alors dans le flux du texte comme guidés par un chien d'aveugle. Mais quand l'ombre du narrateur surgit, exhumée d'un tas de cadavres sous la neige, silhouette juste perceptible, rattrapée par l'auteur, nous apercevons sa main qui dessine dans les dernières pages ce roman qui n'aurait vu le jour que pour aboutir à une feuille dite en forme d'étoile, feuille de platane, au tronc blanc et ocellé. Ici, un ocel signifie, en latin, qui a de petits yeux. Voilà, j'ai fini.